éternelle, les valeurs essentielles sont relatives à la vie éternelle. Donc vous voyez ce parallèle très clair. Et si vous avez déjà retenu ça, c'est important, parce qu'après nous allons arriver finalement au verset, au fondement de la foi, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la vie éternelle. C'est ça l'important. Le reste est secondaire. Le reste est secondaire. C'est-à-dire que, je vous le précise tout de suite, par secondaire, il ne faut pas comprendre dérisoire, mais qui vient en second. C'est ça. Alors on pourrait dire chose seconde, peut-être ce serait plus juste. Il faudra que je demande si un professeur de français qu'il vienne m'éclairer sur les nuances. Mais donc les choses fondamentales et les choses secondaires qui viennent en second, qui viennent après. Et on va dire, si un enfant est premier de classe et l'autre second, on va dire, mais c'est nul, tu es second. Ben, j'espère qu'on ne le dit pas à nos enfants. Donc, venir en second, ça ne veut pas être dire venir en dernier. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est très bon, mais que ça vient après. Et comme j'ai essayé de vous le démontrer, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, c'est toujours le sommet, si vous voulez, mais il y a premier et il y a second. Donc, récapitulons. Les choses les plus importantes sur cette terre, eh bien, c'est la vie. Et pour l'éternité, c'est la vie éternelle. Quelqu'un dira, bien d'accord, mais quel intérêt? Vous voulez en venir où avec tout cela? Et nous en arrivons maintenant à quels sont les fondements de la foi chrétienne. Et on peut s'attendre, si c'est une sorte de résumé de la Bible, à y trouver finalement les valeurs fondamentales dans ce verset. Et ce qui est quand même extraordinaire, et peut-être vous ne l'avez jamais noté, c'est qu'elles y sont. Regardez. Dieu a tant aimé. Mais vous trouvez donc la personne de Dieu, l'élément fondamental de la révélation. Vous trouvez le monde. Le monde, c'est l'ensemble des hommes. Et tout ce qui concerne l'homme est important, on le verra après. Il est question aussi de Jésus. Ouais. Afin que quiconque croit ne périsse pas, ça c'est le salut. Et qu'il ait la vie éternelle. Allez, oui, d'accord, mais où c'est que vous avez trouvé ce verset? Dites-moi, dans la Bible. Eh oui, on trouve ce verset dans la Bible. Dans la Bible. Et vous avez ici des points fondamentaux, 5 points fondamentaux. Il ne faut pas être très observateur pour voir que ça correspond aux 5 doigts d'une main. Ceux qui sont un peu plus érudits diront, mais c'est pareil alors que les 5 piliers de l'islam. Oui, ça ne contient pas la même chose. Mais on peut dire que le christianisme est assis sur 5 vérités fondamentales que vous avez devant vous et contenues dans un même verset. Alors on dit, oui, mais... Il faudrait que vous démontriez que cela est bien en accord avec ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire est-ce que ces 5 points sont en accord avec la vie éternelle? Ah, bonne question, oui, c'est bien, oui, il faudra démontrer cela. Et si j'arrive à montrer que si on touche à un de ces 5 points, on touche à la vie éternelle, c'est-à-dire on touche au salut, j'établirai en même temps qu'il s'agit bien des points fondamentaux qu'il ne faut pas toucher. Hein? Alors voilà une grille que j'ai mise en place, facile à retenir. C'est donc 5 points, mais je les reclasse. La Bible, Dieu, l'homme, Jésus-Christ et le salut. Ça commence à mettre de l'ordre dans vos pensées, j'espère. Il me reste à démontrer encore les choses. Mais ça commence à être déjà un peu plus clair. Et je ne veux pas anticiper sur les applications, mais ça vous met réellement, ce sont pour ainsi dire, 5 tiroirs déjà. Et vous mettez vos 5 tiroirs, vous retenez les noms, et vous allez voir que c'est quand même pratique. Voyons le premier point, la Bible. Alors je pars ici d'un double a priori. Un, que la Bible est la parole de Dieu. Ah, quelqu'un dira, oui, mais ça serait mieux si vous le démontriez. D'accord ? Je ne vais pas m'engager, parce que j'ai dit à tout le monde, je viens une fois, je ne reviendrai pas. Hein. Bon, ça c'est l'idée de l'homme. Dieu dirige les choses des fois autrement. Mais sinon, j'ai deux conférences sur ce thème qui s'appellent la Bible. Première partie, peut-on s'y fier ? Deuxième partie, ce qu'elle est. Et donc, dans ces deux conférences de 2 heures, je montre et démontre que la Bible est, comme l'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens, non pas parole des hommes, mais elle est réellement la parole de Dieu. Je pars aussi d'un autre a priori, c'est que le christianisme est la seule religion, entre guillemets, qui nous permet d'entrer dans une relation vivante avec Dieu. Si vous voulez en savoir plus, vous venez à La Rochelle, je crois, lundi, puisque je traite ce thème. Voilà un verset de la parole de Dieu, Jean 5, verset 24. Jésus a dit, « Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Un peu plus loin, dans le même chapitre, on peut lire un autre verset. Je vais le lire dans une autre traduction, si je la trouve. Je ne l'ai pas. Donc, de mémoire, Jean 5, 39, vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et là, nous avons une déclaration du Seigneur qui concerne les écrits de l'Ancien Testament. Vous sondez les Écritures, c'est elles qui rendent témoignage de moi, et vous pensez que c'est elles, les Écritures, qui vous donnent la vie éternelle. Mais il rajoute, hélas, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, sous-entendu, la vie éternelle. Et ici, nous sommes donc dans le Nouveau Testament, et cela s'applique à ce que le Seigneur Jésus disait, qui nous est consigné dans l'Évangile, « Celui qui entend ma parole a la vie éternelle. » Donc nous voyons très clairement que la parole de Dieu est en relation avec la vie éternelle, et la vie éternelle en relation avec la parole. Donc, la Bible est bien un point fondamental de la foi chrétienne, parce que si vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, c'est dire que vous ne croyez pas quel est son message en même temps, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas, on va rester dans les généralités, être sauvé. Parce que c'est celui qui entend la parole du Seigneur qui a la vie éternelle, et je traiterai tout à l'heure le thème du salut. Alors, si la Bible est la parole de Dieu, il est clair que c'est un pilier majeur dans la révélation et dans l'histoire du salut, puisque c'est elle qui est la révélation la plus complète de Dieu. On ne réfléchit pas toujours à ces choses, mais que saurions-nous de Dieu si nous n'avions pas la parole de Dieu? Certes, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu dans les choses qui ont été faites. Nous sommes d'accord. Et en regardant la beauté de la création ou les roses que je vois là-bas, on peut dire quand même, celui qui a créé ça est grand. D'accord. Mais connaître son amour pleinement, eh bien nous savons que nous le connaissons par Jésus-Christ. Un amour qui est grand comme cela, c'est-à-dire grand comme la croix, où Jésus-Christ a accepté d'être cloué par amour pour nous, pour porter notre péché. Donc c'est la révélation la plus complète de Dieu, c'est elle qui nous raconte l'histoire de l'homme, de sa création à nos jours. Si nous avions que les manuels d'histoire, on pourrait dire que nous avons pour père le singe, pour guide le hasard, et pour fin le néant. Mais nous en savons un peu plus. C'est elle qui annonce Jésus-Christ et qui nous raconte sa vie et sa mort. C'est elle qui nous présente le chemin du salut et de la vie éternelle. Et mine de rien, nous retrouvons la Bible, hein, nous retrouvons Dieu, deux, nous retrouvons l'homme, trois, nous retrouvons Jésus-Christ, quatre, et nous retrouvons la notion du salut, cinq. Regardons maintenant le deuxième point, Dieu. Je ne peux pas traiter ici donc le thème de façon complète, exhaustive, de la révélation de Dieu. Là aussi, il y a éventuellement une autre conférence où vous pouvez en trouver le texte sur notre site infobible.org. Mais lisons ce verset de Jean 17, verset 3. « C'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Jésus-Christ. Ce que je veux simplement souligner, c'est que la vie éternelle est en relation avec la connaissance de Dieu. Il ne suffit pas, quelqu'un dira « je crois en Dieu », oui, c'est très bien, mais encore, il faut que nous croyions en un Dieu qui se révèle, parce que, réfléchissons, si Dieu ne se révèle pas, nous ne pouvons pas le connaître. Exemple simple, qui embarrassait même Voltaire, le grand ennemi du christianisme, qui pouvait dire il me manque un mot, mais ça fait rien. L'univers ou le monde m'interpelle car je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y a point d'horloger. Mais si on continue l'image, moi, je peux expliquer la montre si je suis l'horloger, dire ben voilà, là ceci, ça marche comme ça. Mais en aucun cas, la montre ne peut expliquer l'horloger. Ça semble simple. Mais voilà, quand on me demande d'expliquer Dieu, je dis, attendez, vous vous trompez. Dieu peut m'expliquer, moi, je ne peux pas expliquer Dieu. Ah, voilà. Allez, oui, mais alors vous croyez n'importe quoi. Vous pensez que c'est n'importe quoi, mais vous croyez à rien. Il faut reconnaître que le contenu de votre foi est assez vide. Il croit à rien. À rien. Et puis, comme le disait mon beau-père, un jour, il rencontre un grand professeur de la faculté, et il dit à mon beau-père, « Docteur Potdevin, vous qui êtes si érudit, je ne puis comprendre quand même que vous croyez en Dieu. » Il dit, « Mais cher professeur, mais quand même, et tout ceci que vous voyez autour de vous, cette belle nature, oh, ça s'est fait tout seul. » Il dit, cher professeur, je crains de devoir vous dire que, certes, je crois en Dieu, mais que vous-même, vous me semblez croire encore au Père Noël. Donc, c'est ici la vie éternelle qu'il te connaisse, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu est donc indispensable pour être sauvé. S'il est notre créateur, je viens de vous dire, et si nous sommes ses créatures, nous devons admettre que nous ne pouvons le connaître à moins qu'il ne se révèle. Dieu s'est-il révélé? Comment? Donc ça, c'est une autre conférence. Mais la Bible affirme qu'on ne peut avoir la vie éternelle qu'en connaissant Dieu. C'est donc le deuxième point. Et ce deuxième point est bien un point fondamental, parce que sans lui, on ne peut pas être sauvé. Voyons maintenant le troisième point, l'homme. Je retourne au verset de Jean 3, 16, et on voit qu'il nous est dit bien clairement que si Dieu a donné son Fils, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est une vérité, bon, assez simple. Le salut est liée au fait que l'homme est pécheur. Il n'y a pas de salut sans qu'on soit pécheur. Et on ne peut pas être sauvé si on ne se croit pas perdu. Alors là aussi, j'ai ma petite histoire. Et je l'ai souvent posée, et c'était assez amusant, parce que je ne sais pas par quel mystère, mais ce sont plus les femmes, en tout cas sur la voie publique, qui s'intéressent à la foi que les hommes. Peut-être simplement parce qu'elles travaillent, peut-être elles ont moins d'activités professionnelles, enfin globalement, et qu'elles sont promènent peut-être des enfants, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a au moins deux femmes pour un homme. Et souvent, j'expliquais la chose de la façon suivante. Mademoiselle, bonjour. Ben, écoutez, je vais vous expliquer cette notion du salut. Supposons que vous soyez à la plage, parce que j'étais souvent au bord de mer, en train de vous baigner. Vous êtes ce que vous êtes, et je suis ce que je suis. D'accord ? Vous êtes une femme, jeune, je suis un homme déjà relativement avancé. C'est un âge par rapport à vous. Vous baignez tranquillement, et moi, j'arrive près de vous, et je vous prends dans mes bras. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, les réactions étaient diverses. Je vous donne une claque, je suis cela, voilà, bon, les réactions. D'accord. Un, imagine. Maintenant, même cas de figure. Vous vous baignez, vous êtes pris par une crampe, vous commencez à boire la tasse et à vous noyer. J'arrive et je vous prends dans mes bras. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, ben là, alors je vous saute dans les bras. Ah, je dis, mais enfin, réellement, vous êtes bizarre. Hein. Vous êtes bizarre dans votre comportement. Quelle est la différence entre le premier cas et le second cas ? Le second cas, j'ai été perdu. Voilà, vous avez compris. Pour être sauvé, il faut être perdu. On ne va pas dans les bras du sauveur si on n'a pas la conviction d'être perdu. Oui. Et donc, ce qui touche à l'homme, l'homme non pas parcelle de Dieu, l'homme création de Dieu, l'homme perdu, la chute en Éden, l'homme qui ne peut pas se sauver lui-même, est une notion fondamentale, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, parce que la part normale, c'est de périr. Nous sommes des pécheurs perdus. Eh bien, quand on accepte cela, on peut enfin être sauvé. Et la notion de la perdition est liée au salut et à la vie éternelle. On ne peut pas être guéri si on n'est pas malade. C'est une impossibilité. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas perdu. On ne veut pas être sauvé si on ne réalise pas qu'on est perdu. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et le psaume 49, versets 7 à 8, nous dit, d'une éclatante façon et d'une façon très claire, un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à jamais. Il s'agit là du troisième point. Donc on y est. On va arriver au quatrième point. Jésus-Christ. 1 Jean 5, versets 11 à 13, c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tout est dit. Nous le savons de toute manière, mais Jésus-Christ, c'est le chemin vers Dieu. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, Jean 14, 6, nul ne vient au Père que par lui. Voilà. Donc, est-ce que Jésus est un, entre guillemets, avec tout respect, élément fondamental du salut ? Oui, Jésus-Christ est un élément fondamental du salut. La vie éternelle est en relation avec le Fils, elle est en relation avec le Fils de Dieu, elle est en relation avec Jésus-Christ. Donc la vie éternelle est liée à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, il est le Dieu véritable et la vie éternelle, 1 Jean 5, verset 20. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, Jean 6, 68. C'est lui qui donne la vie éternelle, Jean 10, 28. Et j'aime bien ce passage de Jean 6, 40, qui nous dit « C'est ici la volonté de mon Père que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Ça, c'est fort. C'est pas quelqu'un qui voit le Fils de Dieu qui a la vie éternelle, c'est quelqu'un qui discerne. C'est-à-dire, vous savez, Didi, tu vois là-bas au fond ? Alors, vous fermez un peu les yeux pour mieux voir. Ah oui, oui, attends, je vois. Oui. Quiconque discerne le Fils a la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est une chose extraordinaire de réaliser que Dieu a accepté d'être homme, a accepté de venir sur la terre sous les traits d'un homme de 30 ans. Enfin, il est né, bien sûr, dans la crèche, mais il se révèle à l'âge de 30 ans. À mesure qu'on prend de l'âge, 30 ans, c'est l'âge de ma plus jeune fille. C'est jeune, 30 ans, quand on en a 65 comme moi. C'est jeune, 30 ans. Et Dieu se révèle sous les traits d'un homme. Même Jean-Baptiste disait, c'était son cousin pourtant, je ne le connaissais pas. Ah non, je ne le connaissais pas. Et voyant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il fallait le discerner. Discerner dans cet homme le Fils de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus, après ça, à la fin de son grand ministère galiléen, pose cette question à ses disciples, il dit, mais qui disent les hommes que je suis ? Oh, il y a un Jean-Baptiste, l'autre Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, le Seigneur de lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Un tout petit effort, nous arrivons à la fin, enfin du moins à la pause. Le salut. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et encore, Jean 6, 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et vous savez, ce verset 47 du chapitre 6, c'est le verset qui a bouleversé ma vie. J'étais à l'armée, je faisais mon service militaire légal, et vu que j'étais assez bon en sport, on m'avait sélectionné pour être moniteur d'éducation physique militaire. Alors, me voilà parti dans les commandos du 5e tirailleur marocain, et devenu un expert en sport de combat, et spécialement en close combat. En langage clair, comment tuer avec ses mains votre ennemi en prenant le moins de risques et dans le moins de temps. Alors, j'étais moniteur de ces trucs-là. Alors ma petite conscience d'enfant, fils de frère et sœur de l'Assemblée, a commencé à se réveiller et avec beaucoup de discernement, j'ai compris que j'étais pas tellement à ma place. Bon. Alors, et je suis rentré, j'avais 21 ans, dans une période un peu... J'avais déjà la période de doute, j'ai dit, mais enfin, quand même, là, il faut prendre position. Alors, j'ai pris position, j'ai repris ma Bible que mes grands-parents m'avaient offerte pour mes 10 ans, je l'ai relue. Et là, on a dit, oh, donc, tu deviens curé ? Comme j'étais moniteur de close combat, il valait mieux que ça soit court. J'ai dit, je vous donne 5 minutes pour rire, et puis ça sera terminé. Voilà. Donc, après cela, j'ai lu ma Bible et je suis arrivé dans l'évangile de Jean à ce verset. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. On dit, parce qu'il faut faire le bon choix, c'est pour toute la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle quand il sera mort. Non, a la vie éternelle. Crois, est-ce que je crois ? Puis est-ce que Jésus a réellement bien existé ? Commencer des recherches, etc. Puis l'historicité de Jésus-Christ peut être quand même largement prouvée. C'est d'ailleurs l'expérience que fit Lee Wallace lorsqu'il voulut détruire le christianisme et que Dieu l'arrêta et qu'il tomba à genoux devant Dieu en confessant son péché. Et avec le matériel qu'il avait accumulé pour détruire le christianisme, il écrivit le fameux livre qui est devenu le fameux film Ben-Hur, le film aux 11 Oscars. Alors j'ai eu des tas d'interrogations, et puis un jour j'ai rendu les armes et j'ai dit « Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort pour mes péchés, ressuscité. Je te dis merci. » Et ma vie a basculé à ce moment-là. Et le Seigneur m'a appelé à son service. Verset important. Donc le salut, bien sûr, est en relation avec la foi. Et la foi en relation avec la vie éternelle. La vie éternelle pour un homme perdu, près de périr, loin de Dieu, nécessite un acte de salut, de réconciliation. Dieu donne son Fils, Jésus-Christ, se donne lui-même. Jésus-Christ paye à notre place la dette de notre péché. Le salut est un don de Dieu. Un don ne s'impose pas, il s'offre. Le salut est sur le principe de la grâce, de la foi, pas des œuvres. Et vous avez ce magnifique triptyque que l'on doit, quand on vient à Mélodie, apprendre par cœur. Verset 8 d'Éphésiens 2, « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Le salut est uniquement sur le principe de la foi, de la grâce, non pas sur le principe des œuvres. Les bonnes œuvres sont la conséquence obligatoire d'un salut qu'on reçoit gratuitement, mais les bonnes œuvres ne nous accordent pas le salut. Alors, je récapitule, uniquement 5 points, la Bible, Dieu, l'homme perdu, loin de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a accompli sur la croix une œuvre de salut. La deuxième partie de la conférence a été perdue à cause d'un problème informatique. Nous vous prions de nous en excuser.